C'est vous qui dites.
L'émission d'info locale.
Brest.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est vous qui le dites sur Radio U. Et ce soir, on a le plaisir de recevoir DJ Tao King, DJ résident des soirées Funky Touch chaque mois au Vauban. Tu viens nous parler de la super Funky Touch, une maxi Funky Touch XXL qui a lieu tout ce week-end, dès demain, jeudi à la PAM, puis vendredi et samedi au mythique cabaret Vauban. Bonsoir Frédéric.
Bien le bonsoir.
La Funky Touch, je disais, elle est née au Vauban. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de cet attachement à ce lieu mythique ?
Ouais, alors c'est vrai qu'elle est née là-bas en 2009. C'est un lieu qui est parfait pour la Funky Touch et, parce que déjà c'est un lieu qui date des années 50. Donc c'est un lieu qui a vraiment une histoire et aussi une âme, même si le matériel parfois on peut se douter qu'il y a une âme. Mais il y a quand même quelque chose, une atmosphère dans ce lieu. Et puis ne serait-ce que par le parquet de la piste qui est en bois, et tous les petits carrelages qui ont été mis là aussi. Donc c'est vrai que le lieu, l'atmosphère du lieu fait que la Funky Touch vraiment prend tout son sens.
Et donc tu disais, la Funky Touch, ça existe depuis 2009 déjà. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu son histoire, comment ça s'est mis en place à l'époque, puisque tu étais là, tu es le fondateur de la Funky Touch.
Oui, je suis l'un des fondateurs, ouais, absolument. En 2009, j'avais un magasin de disques que j'avais ouvert en 2006, que j'ai fermé en 2011. Et pour promouvoir un peu ce magasin de disques vinyles, on s'était dit qu'on lancerait une soirée. Et moi, j'ai toujours, j'ai quand même eu la funk au fond du cœur pendant de très nombreuses années avant d'ouvrir mon magasin. Et donc, on s'était dit, tiens, que ce serait bien de promouvoir ce style musical. On était trois DJ. Et donc, on avait monté cette soirée un peu innocemment. Et les deux, trois premières soirées avaient vraiment très, très, très bien marché. Donc, on a continué sur la lancée.
Et puis donc, ce week-end, la Funky Touch prend de l'ampleur, et elle prend de l'ampleur donc aussi parce qu'elle migre, ce sera plus seulement au Vauban, ce sera aussi à la PAM, ça commence jeudi à la PAM. Pourquoi avoir décidé de migrer aussi dans ce lieu ?
Alors déjà, la PAM, c'est un lieu super ouvert, je trouve, et très accessible. Et le responsable du bar, le Social Club, Pierre, est un mec super cool. Et donc, il m'avait contacté pour faire une mini Funky Touch l'an passé, qui s'était bien passé. Et donc j'étais revenu vers lui parce qu'on voulait ouvrir justement notre Super Funky Touch dans un lieu comme ça, à Brest, un lieu ouvert et accessible au grand public, pour ouvrir les festivités.
En tout cas, tu ne seras pas tout seul à mixer ce week-end. Loin de là, tu reçois beaucoup d'invités, des DJ, mais aussi des artistes qui se produiront en live. C'était important qu'il y ait aussi du live.
Ouais, c'est un peu l'ADN ça de la Funky Touch. Ces dernières années, on n'en invitait plus trop, mais... Toutes les premières Funky Touch, pendant de très nombreuses années, on invitait un groupe en première partie de soirée et ensuite nous mixions. Donc ça, c'est quelque chose qui nous manquait à nous, à l'équipe. Donc on s'était dit, tiens, pourquoi pas faire un gros week-end avec deux groupes live et ensuite reprendre les platines. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est inscrit. Et puis on avait à cœur aussi de développer le style funk au sens large. Et ça passe par le live.
C'est-à-dire que la funk, ça peut aussi ouvrir sur d'autres genres musicaux. C'est pas seulement la funk, ça peut être aussi la disco, le hip-hop, ça peut être d'autres genres.
Bien sûr,
ouais. Qui s'y greffent ou qui sont liés de près ou de loin.
Quand tu regardes l'histoire musicale, de toute façon, aux États-Unis principalement, et l'histoire musicale afro-américaine, c'est que des suites logiques. Si je prends juste à partir du jazz, soul, funk, ensuite, il y a une petite parenthèse disco qui est là un peu plus. Diversifié. Et ensuite, il y a eu le hip-hop aussi qui est né du funk, des samples aussi de soul et de funk et de jazz.
Peut-être que tu peux nous parler de ça aussi, justement, parce que tu connais bien cette histoire-là. Comment c'est né cette activité de DJ, de mixer ? C'était lié au hip-hop à la base et c'était lié au sample aussi ?
Alors DJ, non. Vraiment, le DJ, c'est né avant le hip-hop au sens vraiment mouvement. Le DJ, c'est né... En fait, il y avait beaucoup de sélecteurs dans les radios qui passaient beaucoup de disques. Et ensuite, il y a les boîtes de nuit qui sont arrivées fin des années 60, début des années 70, et notamment des grosses boîtes de nuit à New York fin des années 70, avec par exemple le studio 54 ou le Paradise Garage. Et ça, c'est des endroits qui ont vraiment mis en avant l'activité de DJ et de sélecteur musical, et en même temps de mixeur, la personne qui mélange des morceaux ensemble et qui propose un programme musical, une ambiance. Et de ce fait-là, toute cette énergie vient de cette époque, quoi. Fin 70, début 80.
Et comment ça t'est venu, toi, ce goût et cette passion et comment t'as appris, en fait, plus concrètement à mixer ? Est-ce que t'es autodidacte ? Est-ce que t'as eu des gens qui t'ont aidé ?
Ouais, alors, on avait débuté la Funky Touch à trois, et un des membres de ce trio, c'est DJ Will, qui est parti à présent, mais qui lui était plus dans la techno, l'électro, mais qui avait une grosse passion vraiment pour le mix, vraiment. Et moi, j'avais tout le background funk, et j'avais à cœur de vraiment découvrir le mix, et c'est lui qui m'a un peu initié à ça. Et lorsque j'ai ouvert ma boutique en 2006, j'ai fait y a des journées où j'étais un peu en solo, et donc j'avais deux platines, et je passais mes journées à mixer, en fait, dans cette boutique. Et donc j'ai beaucoup appris à mixer sur ces années-là.
On va revenir justement sur le déroulé de ces trois soirées Super Funky Touch, donc qui commence jeudi à la PAM à 20h30. Aura lieu une initiation à la breakdance par Angélique du groupe de hip-hop brestois FDN pour Fierté des Nôtres. À quoi on peut s'attendre ?
Alors, je te corrige un tout petit peu, ça ne va pas être une initiation breakdance, ça va être vraiment une initiation aux funky steps. C'est-à-dire que nous, on a à cœur là, de développer une... Il y avait, dans les années 70, il y avait une grosse émission aux États-Unis qui s'appelait Soul Train. Et c'était une émission qui réunissait vraiment tous les acteurs et les actrices phares de la culture funk. Et il y avait du public et qui dansait et qui faisait après ce qu'on appelle une ligne, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui se mettaient en rang et qu'au milieu, il y avait un espace et les danseurs passaient en duo comme ça devant tout le monde. Ça s'appelle un soul train. Et nous, on avait vraiment envie de remettre ça un petit peu au goût du jour, même si ça se fait c'est toujours actuel dans plein de... Il y a plein d'organisations qui le font, mais nous, à Brest, on avait vraiment envie de mettre ça en avant. Et donc, on avait vu avec cette danseuse qui fait partie de ce crew, la FDN, qui est un crew très actif et très cool de Brest. J'incite tout le monde à les suivre, d'ailleurs, la Fierté des Nôtres. Et donc, elle va nous driver un petit peu sur le dance floor pour nous montrer un petit peu et puis pour créer l'ambiance. Et DJ Phil, justement, de Radio U, qui a une émission qui s'appelle Funky Time, et moi-même, on passera des disques vraiment connotés Soul Train. C'est des disques plus fin 70, mi-70, fin 70, avec beaucoup de cuivre et beaucoup de percus. Et c'est des disques qui sont très... qui donnent vraiment envie de danser.
Et on précise que cette soirée à la PAM sera gratuite.
Absolument gratuite, ouverte à toutes et tous, petits et grands, de 20h30 à minuit 30, les amis.
Et puis la Super Funky Touch se poursuit vendredi au Vauban à 21h15. On pourra écouter le groupe parisien Jéroboam, c'est ouais. Ça, composé de pas moins de 10 musiciens, 2 chanteurs.
Ouais, c'est ça, ouais. Un super band, un big band. Ouais, ça fait plaisir parce que la toute première Funky Touch qu'on avait faite en 2009, en mars, on avait invité un groupe qui s'appelait Einer Schimp Orchestra et ils étaient plus de 10. Et vraiment, le funk sur scène, quand il y a 10 musicos, c'est vraiment une belle fessée. Notamment par la section cuivre, parce qu'il y a souvent 2 ou 3 personnes qui sont au cuivre, plus les percus, il y a souvent des congas ou des choses comme ça. Et là, c'est le cas donc, pour Jéroboam. Il y a une belle section cuivre, il y a des percus, il y a un batteur, il y a 2 chanteurs, guitare, basse. Donc vraiment, ça prend vraiment une autre dimension et c'est vraiment beaucoup plus entraînant et beaucoup plus spectaculaire.
Et enfin, le samedi à 21h45, toujours au Vauban, on pourra écouter l'artiste Kaizé, figure de l'électro-funk. Est-ce que tu pourrais nous présenter peut-être ce genre musical ?
Ouais, c'est dans notre milieu, on appelle ça le modern funk. C'est du funk vraiment pimenté et très carré. Lui, il a une grosse inspiration avec un artiste des années 80 qui a inspiré énormément de monde, qui s'appelle Roger Troutman, qui faisait partie d'un groupe avec ses frères. Le groupe s'appelait Zap. Et il utilisait beaucoup la talkbox. C'est un instrument, un clavier avec une espèce de tuyau dans la bouche et tu modifies un peu ta voix. C'est pas un autotune, mais c'est un peu l'ancêtre de l'autotune. Et donc cet artiste-là, Kaizé, se produit avec cet instrument et donc ça donne vraiment des beats très saccadés, très pointus. Sa musique est souvent utilisée d'ailleurs dans le monde de la danse et souvent dans la danse debout. Et donc c'est une musique qui est très dansante, très, très aiguisée. Et c'est un funk... vraiment accessible, mais en même temps, c'est un truc il faut venir voir pour vraiment kiffer ça. Ouais.
Sophistiqué, je dirais peut-être.
Ouais, voilà, sophistiqué, c'est un terme intéressant.
En tout cas, le modern funk, on comprend peut-être avec ce terme que la funk, c'est pas du tout un genre du passé, c'est un genre qui reste très actuel, qui a encore un dynamisme du funk aujourd'hui.
Énormément, ouais. Après le Covid, c'est un style qui a été énormément remis en avant. et qui a été très utilisé. Et même si tu t'en rends pas compte, au sens général, tu consommes du funk, du jazz funk, de la soul et du disco, t'en consommes régulièrement parce que c'est des styles qui ont énormément été utilisés, par exemple, dans la musique d'illustration. La musique d'illustration, c'est la musique d'ambiance à la télé ou à la radio, des choses comme ça. Donc ça continue d'être utilisé même dans la publicité. Et c'est de la musique qui a inspiré énormément de groupes aussi, énormément de styles. Donc c'est un style qui est toujours très vivant, même si moi je passe des disques des années 80. Ça reste quand même des disques qui sont très lumineux et très souriants et qui donnent toujours envie de danser, et qui donnent toujours la patate.
Et toi, DJ Tao King, tu mixeras dans le cadre de cette Super Funky Touch plutôt au début de soirée et en fin de soirée. Tu encadres d'une certaine façon ces temps forts, là, ces shows en live. C'est une façon peut-être de mettre en avant justement ces artistes.
Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je suis un peu au service aussi de cette soirée. Donc, au début, j'accueille tous les Funky Lovers avant le groupe. Et puis, lorsque le groupe a terminé, on fait un petit changement de scène et je reprends avec une ou un invité, ouais. Et puis après, c'est une funky touch plus traditionnelle, vraiment DJ pur.
Est-ce que tu peux nous présenter justement ces autres DJ qui t'accompagneront, Sirius A, Amadeo 85?
Ouais, voilà. Eh bien, Sirius A, c'est une DJ qu'on devait recevoir en septembre dernier, mais qui malencontreusement avait eu un petit accident, donc avait dû décliner l'invitation. On était très triste, donc j'avais à cœur de la réinviter. Donc là, c'est fait, on est très contents. C'est une DJ parisienne qui évolue aussi un petit peu au cœur de la house, mais là vraiment, je lui ai donné une consigne, c'est vraiment disco funk. Et Amadeo, ben, c'est un gars que nous, on a invité déjà plusieurs fois, qui est un gros digger, gros DJ de Montreuil, qui a un magasin de disques maintenant sur Paris. Avant, il y en avait un sur Montreuil, Blazing Music, pour ceux qui cherchent. Et c'est aussi un gros producteur de modern funk, un gros activiste aussi dans le modern funk. Donc ça fait vraiment plaisir de le recevoir. Il a un label de Zik aussi. Et c'est la 3e ou 4e fois que je le reçois. Ouais.
Et puis donc, tu l'as dit, tu mixeras aussi en commun avec d'autres artistes. Comment on fait concrètement pour s'adapter à mixer avec d'autres personnes?
Bah déjà, le premier travail d'un DJ, c'est de faire une bonne sélection. Alors moi, j'ai des disques. C'est pas de l'ordinateur, c'est pas des clés USB. Donc en amont, j'essaie de faire une sélection assez éclectique dans cet univers du funk et du disco. Et après, parce que le funk, le funk, ça va de la fin des années 60 au le gros funk, ça va de la fin des années 60 au début des années 80. Moi, mon style de prédilection, c'est plutôt le funk qui va de mi-70 à mi-80. Et le disco, c'est plutôt vraiment fin 70, début 80. Ça a été très court le disco en réalité, le disco originel. Et donc, j'essaie de faire une sélection assez éclectique, comme ça on peut s'adapter. En règle générale, moi j'accueille le public aux platines. Ensuite, quand il y a un peu le coup de feu, qu'il y a vraiment la masse de monde qui se pointe, notre invité monte sur scène et après on se partage un peu les platines.
Est-ce que le DJ finalement c'est quelqu'un qu'il faut regarder, c'est quelqu'un qui se met en avant, ou est-ce qu'au contraire c'est quelqu'un qui va permettre aux invités, à la foule, de s'ambiancer?
Bah ça, c'est un point de vue qui a été débattu et qui continue d'être débattu dans ce milieu-là de façon régulière. Ça dépend un petit peu, je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui disent le DJ, c'est juste le passeur de musique. Il n'a pas besoin d'être mis forcément en avant. L'important, c'est la musique. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité avant toute chose. Nous, on passe des disques. Moi, je ne suis pas un musicien. Je ne crée pas de la musique. Je passe des disques. J'essaie de passer des bons disques. Donc, j'essaie de faire une bonne sélection de disques. Voilà mon point fort, entre guillemets. Après, moi, j'aime bien être sur scène et j'aime bien voir les gens parce que ça me donne de l'énergie, ça me donne la patate. Lorsque tu es venu à la Funky Touch, tu m'as donné de l'énergie, par exemple. Petit aparté. Eh bien, moi, c'est quelque chose dont j'ai besoin aussi. C'est un échange aussi. Je passe des disques, j'estime qu'ils sont bons. Si je vois que sur la piste, ça réagit bien et que les gens sont contents, moi, ça me fait plaisir et ça me confirme dans mon truc et ça me donne la pêche. Donc, on y va ensemble. Donc, moi, c'est cette interaction-là que je recherche. Donc, j'ai besoin d'être de voir visuellement les gens, et j'aime bien que les gens aussi me voient pour qu'on puisse communier un petit peu. Mais je peux comprendre aussi le délire de vouloir rester dans sa petite bulle et de passer que des disques. Mais c'est important de voir la piste, en tout cas. Ça, c'est très important.
Et c'est important qu'il y ait des danseurs qui dansent.
Danseuses, danseurs, bah ouais, c'est le but. Hein. Moi, je fais ça pour qu'on soit toutes et tous ensemble à danser et à rêver, comme j'ai souvent tendance à le clamer. Mais c'est vraiment quelque chose auquel je tiens, parce que c'est là où on se libère, et la liberté, ça n'a pas de prix.
C'est le moment de notre pause musicale. On va écouter justement un artiste qui sera présent à la Super Funky Touch. On écoute Kaizé avec son titre Chouf, issu de son dernier EP, Mirage. Bonne écoute sur Radio U. Toujours dans C'est vous qui le dites avec DJ Tao King. On continue à parler de la Super Funky Touch qui aura lieu ce week-end, jeudi 20h30 à la PAM, puis vendredi, samedi au Vauban. On parlait de la danse, du fait de danser en soirée. Justement, c'était une question que je voulais te poser. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué de danser avec les réseaux, avec l'omniprésence de l'image? Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui de danser en toute insouciance?
C'est une belle question, ouais. Je sais pas, parce qu'en plus, c'est assez paradoxal, parce que la danse, justement, à travers certains réseaux, type TikTok, est vachement mise en avant. Mais si on a l'impression que c'est une danse très codifiée et très ostentatoire. Donc je sais pas trop, ouais. C'est vrai que moi, j'avoue que je suis pas mal dans ma bulle. Mais en tout cas, nous, c'est vraiment l'espace qu'on souhaite créer au Vauban. Et en plus, le Vauban permet ça, parce que le Vauban, c'est une salle, d'ailleurs... J'ai pas dit ça tout à l'heure, mais c'est une salle très éclectique, le Vauban. Il y a beaucoup de choses au Vauban et beaucoup d'associations brestoises. Le patron, Charles, moi je lui témoigne un grand respect pour ça parce qu'il ouvre les portes de son établissement à beaucoup de monde. Et ça, c'est assez rare à notre époque. Donc le Vauban a cet état d'esprit. Donc les gens viennent aussi avec cet état d'esprit au Vauban. Donc ça fait partie aussi de ça. Donc ils viennent en Funky Touch pour se faire plaisir. Et nous, on a essayé vraiment de mettre... De toute façon, la funk, c'est une musique qui a été créée pour danser. C'est une musique qui a été créée pour les boîtes de nuit, en tout cas la funk fin 70, début 80. Vraiment, c'est une musique qui a été destinée aux danseuses, aux danseurs pour se faire plaisir et se libérer. Donc ça prend vraiment tout son sens et nous, c'est vraiment notre cheval de bataille. Ouais. C'est que les gens viennent et se sentent libérés.
Et tu parlais des danses de TikTok justement qui sont très codifiées, qui sont très chorégraphiées, qui sont en fait qui sont apprises par cœur, qui sont finalement très robotiques quand on y réfléchit, qui sont très belles visuellement. Mais peut-être que ça nous interroge aussi sur la définition de la danse, c'est-à-dire que quand on vient danser à la Funky Touch, finalement c'est sur un dance floor, c'est un peu notre mouvement intérieur, c'est de l'improvisation, et c'est pas grave en fait si c'est pas beau, c'est pas grave si c'est même un peu ridicule en fait, on s'en fiche parce qu'on est là pour passer un bon moment.
Mais ouais, le ridicule, c'est une notion aussi qui est assez abstraite finalement, parce que c'est une question de point de vue. Y a des gens qu'on va trouver ridicules, mais c'est mon point de vue. Si tu te fais plaisir, moi c'est la priorité, viens on se fait plaisir. Et la Funky Touch, c'est vraiment le but, c'est qu'on se fasse plaisir. Et moi je suis toujours très content quand je vois par exemple, j'ouvre la soirée et il y a 3-4 personnes qui viennent et qui viennent tout de suite sur la piste de danse. Et moi ces gens-là, je les kiffe parce que c'est les premiers qui viennent danser et ils font cette démarche, ils viennent, ils ont la banane, moi j'ai la banane Et c'est vraiment le but. Donc oui, il y a pas de, nous il y a pas de carcan, il y a pas de, d'histoire de regarde comment ils dansent, machin, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est que c'est qu'on soit libre. Et dans ce monde actuel où on sent vraiment une grosse pression, où, en tout cas, on peut avoir cette sensation, bah nous, c'est vraiment ça. Viens, viens comme t'es, quoi.
Parce que je te parlais de la, de l'omniprésence de l'image, c'était aussi au sens où en fait, on parle de plus en plus de ça, du fait que voilà, le moindre geste qu'on va faire va être photographié, va être pris en vidéo, va se retrouver sur les réseaux. Et donc peut-être qu'il peut y avoir cette pudeur-là aussi du fait qu'en fait, il y a des caméras qui sont partout présentes dans toutes nos poches et qui sont déployées en fait dans ces concerts. Je ne vais pas te poser la sempiternelle question de, en fait, on vient assister à un concert, mais on passe tout le concert à le filmer et en fait, on ne profite pas du moment.
Ah ouais, ça c'est vrai que c'est triste. On voit beaucoup ça, ouais, sur certaines attitudes avec certains gros concerts, ouais. Et moi-même, c'est vrai que je filme, j'essaie de filmer les Funky Touch. Maintenant, je ne m'attarde pas trop là-dessus. J'essaie de filmer quelques instants, des bons instants, et puis de, pour promouvoir, afin de promouvoir la soirée. Mais c'est vrai que... Et je suis assez content de ça, finalement. En fait, je me retrouve... je filme, moi, la soirée, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui sortent leur téléphone dans la soirée et qui filment et qui identifient la Funky Touch. Donc des fois, je me dis, mince, j'aimerais bien avoir un peu plus de contenu, mais au final, je suis content parce que je me dis, les gens, au lieu de passer leur temps à filmer la soirée et à me taguer ou des choses comme ça... Enfin, ou à taguer la Funky Touch, eh ben, ils viennent danser. Et donc ça, c'est une victoire quelque part. Et c'est vrai que c'est un monde qui peut être oppressant dans ce sens-là. Et donc nous, d'avoir cette dimension libre, bah, c'est ce qu'on défend le plus.
Toi, tu es attaché au support du vinyle. Est-ce que c'est forcément nostalgique, est-ce que c'est forcément vintage d'écouter une musique issue des années 70, des années 80 est-ce que c'est forcément nostalgique?
La nostalgie, je ne sais pas si c'est la maladie du retour. Et moi, je n'ai pas, j'ai pas une, une démarche nostalgique au sens qui pourrait être connoté un peu triste. Moi, j'aime, bah, je suis assez âgé, j'ai pas mal vécu. Et c'est des objets que j'ai eus à une époque où c'était un objet du commun. Donc pour moi, j'ai pas une vénération non plus du disque. Même si je collectionne, j'aime les disques. C'est un support que j'apprécie parce que c'est un support sur lequel j'ai appris à mixer et que je trouve intéressant pour le mix. Il y a une espèce de chose un peu corporelle. Tu poses ta main sur le disque, la musique elle est là dans le sillon, il y a quelque chose d'assez mystérieux. Et puis les pochettes de disques, tout ça, et puis le fait que c'est des objets qui traversent le temps. Là tout à l'heure j'avais acheté un disque il y a quelques temps et il était scellé en fait. C'était un disque qui était sous cellophane et c'est un disque de 1984. Donc tu te rends compte, depuis 1984, il était sous cellophane et je l'ai ouvert tout à l'heure. Donc j'ai noté la date à laquelle je l'ai ouvert. Et je trouve ça, moi, c'est un peu mon kiff aussi. Tu trouves ce genre de disque, tu l'ouvres, il n'avait pas été ouvert depuis 1984. Tu le passes sur ta platine, c'est un super disque. Et je vais le passer à la prochaine Funky Touch.
Je parlais de nostalgie parce que peut-être qu'effectivement, on peut s'imaginer, moi je ne les ai pas vécues hein, ces années-là, mais est-ce que peut-être à l'époque, il n'y avait pas, quand ce genre-là musical, la disco, le funk, était le genre peut-être... prédominant. Aujourd'hui, le genre prédominant, c'est peut-être plutôt le rap. Est-ce qu'on n'était pas forcément... C'était pas une période plus d'insouciance? Est-ce qu'il n'y avait pas aussi plus de décontraction, en fait?
Alors moi, je viens pas des années 70-80, je viens des années 90. Mais oui, tous les jours, je me dis... pour avoir vécu ces années-là, le fait de pas être tout le temps tributaire ou de pas être tout le temps rattaché à ton téléphone... Et ben ouais, il y avait une liberté. Tu avais une insouciance dans le sens où tu avais beaucoup plus de temps où tu étais livré à toi-même. Et donc tu te forgeais, j'idéalise pas, hein, mais tu te forgeais, ta démarche était différente. Tu attendais tes potes, fallait les attendre. Tu avais des 02, fallait que tu téléphones, fallait que tu attendes 18h, 19h pour essayer de le capter, parce que des fois tu téléphonais, il n'était pas là. T'allais dehors, t'avais un rendez-vous, tu t'étais dit ça ce matin, c'est pas sûr que tu le retrouves. Donc y avait, le temps était différent et la notion de rencontre était différente. Et oui, moi j'ai un peu peur aussi, j'ai un fiston et je me dis, est-ce qu'il va pouvoir vivre aussi cette insouciance que j'ai eu l'occasion de vivre où tu partais et puis c'était l'aventure.
Est-ce que t'as un avis justement, toi, sur le paysage musical actuel qui est dominé par le rap et qui est peut-être aussi dominé, alors évidemment il y a la pop aussi de l'autre côté hein, avec toujours des formats typiques qui sont ultra édulcorés et ultra sucrés, mais ce que je parlais du rap parce que le rap pour le coup il est quand même aussi plus plus sombre peut-être quelque part, ça dit quelque chose de notre époque.
Le rap, de toute façon, ça, moi j'écoute du rap depuis le début des années 90, j'en écoute moins ces dernières années, je vais pas mentir, mais le rap ça a toujours été quand même une forme de miroir de la société. Et le rap actuel, il est très très diversifié en réalité. Il y a du rap très très mainstream, très pop, comme il peut y avoir du rap très sombre et très limite, très nostalgique aussi, ou même très désabusé. Donc c'est le rap, c'est une musique que j'ai toujours appréciée parce que c'est une musique du cœur aussi quelque part. Et c'est une musique qui offre la possibilité à de nombreuses personnes de s'exprimer et d'exprimer aussi son fort intérieur, et d'une belle manière bien souvent. Donc moi, c'est une musique que j'ai toujours gardée dans le cœur. Maintenant, c'est vrai que le rap moderne, il peut avoir un effet, comme on disait, aussi très cadré et très millimétré, et notamment tout l'univers du streaming a beaucoup codifié ça aussi. Donc il y a des gens qui font des morceaux uniquement d'une durée bien spécifique, par exemple, pour pouvoir streamer plus facilement et pour pouvoir toucher des royalties plus facilement. Donc c'est assez ambigu aussi, c'est notre époque.
On parlait des samples tout à l'heure et c'est vrai que dans l'histoire du rap qu'on va pas retracer, mais aux origines du rap, peut-être qu'il y a aussi cette forte proximité avec justement tous ces genres musicaux qui sont samplés. Donc finalement, en samplant de la funk, en samplant du disco, on fait quelque chose qui n'est pas si loin que ça, du funk et du disco, non ?
Bien sûr, ouais. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est une musique, de toute façon le rap aux États-Unis, c'est une musique qui dérive de la soul, du funk et du jazz. Ça a pris son essence là-dedans. Et donc, au tout début, le rap, c'était des boîtes à rythme. Donc, il n'y avait pas vraiment beaucoup de samples, parce qu'il n'y avait pas d'outils techniques pour prendre un échantillon musical de 5, 10 secondes et de le faire tourner en boucle. Donc, c'était beaucoup de boîtes à rythme. Mais au départ, les gens qui rappaient, c'était sur des disques. Avant, la musique enregistrée, c'était sur des disques. Et donc, les premiers DJ qui organisaient des battles de rap ou des choses comme ça, des block parties, on appelait ça, ils prenaient beaucoup de disques de funk et de disco, et ils prenaient ce qu'on appelle le break. C'est une partie du disque où il n'y a plus de chanteur ou de chanteuse, mais c'est plutôt beaucoup percu, des choses comme ça. Et donc les danseurs dansaient là-dessus, et les rappeurs prenaient le micro et haranguaient la foule là-dessus. Et donc petit à petit, les boîtes à rythme sont arrivées, et les samplers sont arrivés à la fin des années 80, où là, beaucoup de producteurs ont pris vraiment dans la soul, dans le funk, et ont échantillonné, on dit en français, des petits morceaux et les ont mis en boucle et ils ont agrémenté ça avec des FX ou avec des kits de batterie, des choses comme ça, des percus. Et après, le rap est né, vraiment l'essence du rap est née ici, là, dans les années fin 80, début 90.
Mais c'est oui, là, cette frontière-là, fin des années 80, début des années 90, c'est particulièrement intéressant, ce moment où en fait la musique s'est nourrie d'elle-même en fait pour se construire. C'est-à-dire qu'il y avait déjà les années qui avaient passé, les années 70-80, avaient déjà été tellement riches en termes de musique, que finalement ça constituait une bibliothèque déjà immense et que quelque part il fallait faire de la musique, c'était forcément revenir à cette histoire-là, c'était puiser dans l'histoire de la musique quelque part.
Bah ouais, et puis en plus pour les États-Unis, la France c'est un peu à part, on s'est approprié aussi un peu ce style-là. Pas une appropriation culturelle, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient les voyages aussi, qui allaient à New York, à Yam, à Kenaton, tout ça, c'est des gens qui partaient à New York. Même à Kenaton, ils voulaient vivre à New York et produire à New York. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est de la logique. C'était des enfants de musiciens. Par exemple, Nas, qui est un très grand rappeur new-yorkais, son père était musicien de jazz, au saxo, ou à la trompette, pardon. Donc c'est des gens qui avaient cet héritage-là. Et donc ils vivaient dans cet état d'esprit-là. Donc pour eux, c'était naturel de vivre ça et d'aller puiser dans cette musique et d'en tirer une essence. Et c'était comme une forme aussi de mise en abîme musicale où on tire une substance, quelque chose, vraiment ce qu'on pourrait appeler le prime un peu de certains morceaux, ou vraiment les choses la plus dense, et on en fait quelque chose de neuf et on repart avec. Et ça a été critiqué pas mal au début par les anciens, le rap, parce qu'ils estimaient que c'était un peu du vol. Et après, il y a eu les gros clashs avec les clearances de samples et tout ça. Mais au début, le rap, c'était une grosse liberté, ouais. Et c'était de faire revivre aussi des morceaux.
En tout cas, la Funky Touch, c'est aussi un esprit de communauté que tu as travaillé. C'est-à-dire que quand la Funky Touch est devenue quelque part une sorte de marque à Brest, c'est des soirées qui sont quand même très connues. Le slogan « Danser et rêver ensemble », ça c'était vraiment une volonté de ta part de développer un univers autour de ça.
Ben ouais, parce que il y a quelques années, j'ai réalisé qu'on avait traversé pas mal d'époques. En fait, c'est vers quand on est arrivé vers 13-14 ans de Funky Touch. Je me suis dit, la vache, en regardant un peu en arrière, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus et il y a eu pas mal de générations de danseuses et danseurs qui sont venus sur ces 13-14 ans. Maintenant, ça fait 17 ans. Et donc, c'est vrai que j'ai commencé à identifier les Funky Lovers et à vouloir fédérer un peu tout ce phénomène. Et puis, l'époque aussi veut ça. On a besoin aussi de se fédérer aussi, je trouve, autour de choses positives. C'est important. Donc moi, j'ai voulu mettre ça en avant aussi pour qu'on soit une petite communauté sans que ce soit... Il n'y a pas d'esprit de communauté fermée. C'est vraiment quelque chose de très ouvert. Mais il y a cet état d'esprit. Si tu as la patate, si tu as la pêche, si tu as envie de sourire, si tu as envie de te faire plaisir, viens à la Funky Touch.
Et je vais te poser des questions plus spécifiquement sur la fonction, sur le métier en fait, de DJ. En quoi ça consiste techniquement d'être DJ? Qu'est-ce que tu fais en fait, derrière les platines?
Alors, comme on disait, moi, je suis plutôt un DJ 100% vinyle, même si parfois je mixe avec des outils numériques. La fonction première du DJ, c'est de choisir de la bonne musique. C'est vraiment un travail de fond. Moi, j'écoute beaucoup de musique chez moi, mais de la musique pour identifier si elle est... si elle est dansable ou pas, si je peux me permettre ce terme. C'est vraiment, moi, c'est mon but, j'écoute beaucoup de musique, je cherche beaucoup de musique. Toute la journée, c'est mon taf. Je cherche de la musique, j'écoute beaucoup de tracks pour voir s'il y a quelque chose, si ça me plaît, si je vais pouvoir mettre ça en place. Donc ça, c'est vraiment le premier gros taf. Après, l'aspect matériel, que ce soit des vinyles, que ce soit des clés USB, que ce soit des ordinateurs, peu importe. Le travail du mix, c'est d'essayer de faire une belle sélection musicale et de faire une belle progression pour que les gens apprécient la soirée et tu les emmènes un petit peu, c'est un peu un cliché de dire ça, mais de faire un voyage, mais tu les drives un peu et t'essaies de placer des bons morceaux au bon moment. Et t'essaies de ressentir la piste quand tu vois que t'as un petit coup de mou, t'essaies de mettre des morceaux qui sont un peu plus chaleureux, un peu plus qui appellent un peu plus les gens. Et quand tu vois que t'es vraiment bien monté, t'essaies des fois de redescendre un petit peu pour faire des vagues. Après, moi, mon travail, c'est de prendre deux disques, platine A, platine B, et je passe le premier disque platine A et ensuite j'essaie de mixer le deuxième sur la platine B sur la fin de la platine A, quoi.
Et donc le travail, il se fait aussi en amont parce que c'est un travail de sélection, un travail de collection. Comment t'en es arrivé à faire cette collection? Est-ce que on imagine que t'as une grande collection de vinyles? Ça s'est fait sur des années?
Ouais, c'est un travail de longue haleine. Hein. C'est un travail de longue haleine. Après, c'est aussi tout l'intérêt de ma démarche. À titre personnel, voilà. Moi, je prône rien du tout, mais moi, je fais cette démarche aussi dans cet intérêt-là, c'est-à-dire je collectionne des disques, je les glane petit à petit. Il y a aussi une prise de recul vis-à-vis de l'époque. Moi, je commande des disques sur Internet, comme tout le monde, mais ce n'est pas non plus là où j'achète le plus de disques. Donc, j'attends aussi que les disques viennent à moi. Donc, c'est aussi une démarche. Moi, c'est une question de rapport au temps aussi. Le disque, il faut le prendre. Bon, à l'époque, ça coûtait un peu moins cher. Maintenant, c'est vrai que c'est assez cher. Mais donc, tu essaies vraiment de choisir des disques qui te correspondent. Tu vois, moi, j'ai pas beaucoup de disques déchets, par exemple. Tous les disques que j'achète, je les écoute avant et je me dis, est-ce que c'est vraiment un morceau que je vais utiliser? Si c'est pas un morceau où je me dis, bon, il n'a pas un grand intérêt dans ma collection, bah, j'achète pas. Donc, ce qui fait que pour moi, selon moi, j'ai pas non plus énormément de disques. Hein, je dois avoir pas loin de 3000 disques. Mais c'est des disques que j'ai vraiment sélectionnés, auxquels je tiens. Et donc après, ouais, ça fait partie de ma démarche de DJ, ouais.
Est-ce qu'il y a un moment de la journée où tu préfères mixer, parce que tu mixes dans différents événements et t'as connu beaucoup, beaucoup de choses différentes. Est-ce que toi, t'as une préférence particulière pour l'après-midi, le début de soirée, fin de soirée, plus tard dans la nuit?
Tu veux dire publiquement ou à titre privé?
Plutôt publiquement, oui.
Publiquement, j'aime bien... Bon, moi, j'aime vraiment... Pendant longtemps, la Funky Touch, c'était de minuit à 5 heures. Là, on a perdu une heure. Voilà, c'est un petit souci au Vauban. J'espère qu'on récupérera cette heure dans le futur. Mais en tout cas, minuit, 5 heures. Moi, j'adorais faire des solos, vraiment mixer 5 heures d'affilée, de minuit à 5 heures. Et j'aime beaucoup la progression minuit, 2 heures du matin. Les gens arrivent. Et donc là, tu passes des styles de funk hyper chaleureux, très accueillants, avec beaucoup de cuivre ou une funk un peu plus ralentie. Donc j'aime bien aussi ce créneau-là. Mais j'aime beaucoup aussi faire des mix d'ambiance. C'est des mix qu'on me demande parfois pour des fins de journée ou des choses comme ça. Où, là, je vais passer plutôt des choses du type jazz funk ou de la funk très cool ou de la musique brésilienne ou de la musique un peu des Caraïbes ou de la musique un peu ouest-africaine. Et donc là, c'est des mix que j'aime beaucoup parce que c'est des disques que j'écoute un peu moins et que je prends le temps d'écouter aussi à titre personnel lorsque je les passe. Et c'est des disques aussi plus planants, donc il y a quelque chose aussi très intéressant dans ce type de mix.
En tout cas, la Funky Touch, c'est une soirée qui est née au Vauban. Là, on l'a vu, elle s'exporte à la PAM. Est-ce que tu as prévu peut-être de l'étendre aussi à d'autres villes ? Est-ce que ça a déjà eu lieu peut-être ?
Oui, ça a déjà eu lieu, notamment on fait une Funky Touch depuis, là on a fait la 5e édition, au Sioux à Morlaix, en fin d'année. Donc c'est souvent à l'approche de la période de Noël. Là, c'était le 20 décembre. Et c'est une Funky Touch qui réunit énormément de monde à Morlaix, d'ailleurs, c'est assez stupéfiant. À la dernière, on était plus de 1000 personnes là, au Sioux. Donc nous, on essaie vraiment de développer ça, mais sans faire de... Moi, j'ai à cœur vraiment de ne pas faire de concessions musicales. Donc c'est-à-dire que nous, la Funky Touch, c'est quelque chose qui est né... nous étions trois DJ et on avait un peu trois styles différents dans l'univers du funk. Et on s'était dit, vraiment, nous, on passe pas de musique trop connue. Ou... On avait vraiment cette démarche-là. On voulait passer du funk qui était inconnu ou du funk qui nous tenait à cœur, vraiment. Donc nous, on s'écarte vraiment des sentiers vraiment battus et du disco rabattu et du disco type vraiment Boney M ou des choses comme ça. Ou... C'est vraiment pas du tout notre style de zik. Nous, on va vraiment chercher des choses beaucoup plus pointues, sans prétention, mais vraiment pour... Parce qu'il y a des morceaux vraiment magiques et lumineux qui ne sont pas connus, et nous, c'est vraiment notre cœur de cible. Donc, on essaie de développer la Funky Touch, mais en gardant cet état d'esprit. Bien sûr, je mets des morceaux un peu repères et un peu grand public, mais ce n'est pas des trucs vraiment trop galvaudés. Ou alors, c'est des trucs qui appartiennent à l'univers classique funk.
Comment t'imagines, toi, la suite, l'évolution de Funky Touch ? Est-ce que finalement, la marque, elle est devenue tellement forte que quelque part, elle est plus forte que toi ? Il y a d'autres artistes, d'autres DJ qui pourraient s'y produire sous le nom Funky Touch ? Ou bien est-ce qu'au contraire, c'est un truc qui t'est complètement personnel et tu veux que ça reste à toi ?
C'est une bonne question aussi, tiens. C'est avec le temps, maintenant, je suis le seul DJ vraiment résident. Mes collègues sont partis sur d'autres aventures, donc je suis resté le seul avec mon frère qui s'occupe de tout ce qui est visuel et logistique avec moi. Mais moi, je suis vraiment le seul DJ et je suis aussi un peu le directeur artistique, entre guillemets, de cette soirée. C'est moi qui invite les gens. Donc, finalement, c'est aussi ma patte, elle est un petit peu indélébile de ça, mais on ne s'est pas mis, nous, en avant, comme on peut revenir à la question de tout à l'heure, où l'aspect DJ, un peu star, tout ça. Bon, moi, je garde les pieds sur terre, je suis à Brest, et puis mon intérêt premier, c'est de passer des disques. Mais on n'a pas voulu non plus se mettre trop en avant parce qu'on voulait que ce soit la soirée qui attire du monde. Et que finalement, peu importe les gens qui viennent à la soirée, les gens viennent pour une espèce de label Funky Touch et ils savent qu'ils vont retrouver des bonnes ondes et de la bonne vibration là-dedans. Donc nous, on a vraiment travaillé pour ça. C'est le but.
Est-ce que tu pourrais maintenant, peut-être pour conclure cette émission, nous partager des anecdotes, des meilleurs souvenirs que tu aurais de toutes ces soirées passées derrière les platines ?
Il y a beaucoup de choses, ouais, c'est vrai. Il y a des soirées où on s'est fait des grosses frayeurs, où c'est souvent des soirées qui sont liées aussi à des problèmes techniques ou des choses comme ça. Mais il y a eu, par exemple, je reviens souvent là-dessus parce que ça a été une période qui a été complètement folle, c'est les soirées post-Covid, les soirées qui avaient repris en septembre 2020 et après qui s'étaient interrompues. Vers novembre ou décembre et qui avait repris début 2021, c'était des soirées complètement folles. C'était des soirées où il y avait une énergie vraiment électrique. Il y avait beaucoup de jeunes, énormément de jeunes, qui avaient envie de danser et de se libérer. Donc c'est des soirées où il y avait des slams, il y avait des gens qui montaient, qui s'accrochaient au Vauban dans je sais plus comment on appelle ça, mais les espèces de petits pylônes techniques où il y a les lumières, les gens montaient sur scène. Et on a vu des choses incroyables ces soirées-là. Donc là, vraiment, c'était une époque assez folle ouais, de la Funky Touch.
Et bien, si vous voulez vivre des choses incroyables, il faudra se rendre à la Super Funky Touch qui aura lieu ce jeudi à la PAM, soirée gratuite, puis deux soirées au Vauban, vendredi et samedi. Vous pouvez réserver vos places sur WizEvent, c'est ça ?
Absolument, ouais.
Et puis, on peut vous suivre sur Insta, sur le compte Funky Touch Brest.
Ouais, voilà, c'est ça.
Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir été avec nous.
Merci à toi de m'avoir invité, mon ami.
C'est vous qui dites revient demain à 18h, toujours en direct sur Radio U. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur notre site radio-u.org et notre Insta Radio U. Merci à vous de nous avoir écoutés. Bonne soirée. À demain.
Gros love à Radio U.
Radio U.